Voilà, je vous invite à retrouver Abraham. Et nous lisons ce matin le chapitre 13, Genèse chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le Négoé avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négoé jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début entre Bethel et Haï, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux de l'endroit où tu es. Regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. » Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chefs de Mamré, qui sont près d'Hébron. Là, il construit un autel en l'honneur de l'Éternel. Voilà, j'aimerais faire un ensemble de réflexions et de questions par rapport à Abraham, à Lot et à l'Éternel. On se rappelle qu'Abraham a quitté son pays, il a fait un long voyage depuis Ur, il a été à Charan, il est monté, il est descendu vers le pays promis. L'arrêt à Charan, à Charan, on se rappelle que c'est une route commerciale, hein. Si vous cherchez un peu, vous verrez, c'était une route fréquentée où il était facile de faire du commerce et de s'enrichir. Et on peut supposer qu'Abraham, arrivant là-haut avec son père Térak, ont vu la possibilité de s'enrichir. Et en ayant du bétail et tout, et ben, les gens venaient acheter, c'était soit pour des sacrifices, soit pour manger, soit pour après utiliser la peau, faire des tentes. Donc ils avaient un commerce certainement qui était profitable. Maintenant la question, vous rappelez, il dit, on ne sait pas si, comme c'est des familles patriarcales où le père a autorité et les enfants donc beaucoup moins, est-ce que c'est Térak qui a décidé de s'arrêter et qu'Abraham n'a pas osé dire « Ah, mais on a reçu l'appel de l'Éternel, tout ça, il faut qu'on continue. » En fait, ils vont faire une station à Charan, qui, à mon avis, va durer quelques années. Mais, que ce soit Abraham ou que ce soit Lot, ils se sont enrichis. Et la famine, lorsqu'ils sont dans le pays promis, va les obliger un peu à se déplacer en Égypte. Et Lot fait partie du voyage. Mais là, on se rappelle qu'en Égypte, il va y avoir un épisode malheureux où Abraham va dire que sa femme c'est sa sœur et que Pharaon va la prendre pour femme. Et au bout d'un moment, Dieu fait tomber une malédiction, les femmes deviennent stériles, tout ça. Pharaon fait un rêve et très bref, il renvoie Abraham. Donc ce n'est pas un épisode spécialement glorieux de la vie d'Abraham. Il retourne à Bethel, retrouve l'autel qu'il a construit Il a certainement offert un sacrifice. L'autre est toujours parti du voyage. Et lui aussi s'est enrichi là-bas. Le texte que nous venons de lire maintenant fait suite à ce retour et va nous parler de cette séparation volontaire, je dirais même nécessaire, entre Abraham et Lot. Beaucoup interprètent ce texte en disant ah ben ce texte, c'est la différence entre marcher par la foi et marcher par la vue. On peut lire ce texte avec cette perspective, mais on peut se poser la question, est-ce qu'au moment où Abraham demande à se séparer, est-ce qu'il est en train de faire « je marche par la foi et toi tu vas marcher par la vue » ça se discute. Alors je vous propose de regarder dans un premier temps l'attitude de Lot. Finalement, Lot, c'est un neveu chanceux, parce qu'il a pour oncle celui à qui l'Éternel a fait des promesses extraordinaires. Promesses d'un pays, promesses d'une descendance tellement nombreuse qu'on ne pourra pas la compter, promesses que toutes les nations de la terre seront bénies en son nom. Et lui, bah finalement, il est comme un petit peu couvert par cette promesse. Hein. Il marche avec celui qui va devenir quand même le grand Abraham. Et il jouit en même temps de la protection d'Abraham, hein, parce que là-bas, vous savez que c'était assez dangereux de se déplacer seul et tout, et si on était assez nombreux, tout ça, bah, ça donnait aussi un sentiment de sécurité. Et Abraham était un homme riche, qu'on voit dans le texte, il était quand même assez considéré à cause de sa richesse, et Lot, d'être avec lui, bah, quelque part, c'est une bonne chose. Et je pense que Lot, il s'est enrichi depuis le départ de Ur en Chaldée. On voit qu'il a des troupeaux qui sont devenus considérables, il a des tas de serviteurs et tout, et quelque part, socialement, il est en train de réussir. Peut-être même qu'il commence à se faire un nom, peut-être une réputation, puis avec, ah bah c'est le neveu d'Abraham, c'est un homme très riche, il possède beaucoup de bétail. Et puis arrive un jour le problème. Mais le problème, il n'est pas entre Abraham et Lot. Le problème, il est entre les bergers. Hein, il est entre les serviteurs hein, qui disputent certainement que l'herbe est toujours plus verte dans le champ du voisin, donc ça doit être un peu une histoire comme ça. Il n'y a pas assez de place, la vallée devient trop petite. Et ce qui est intéressant, là, je ne l'avais jamais remarqué, mais dans tout le texte, là, Lot il ne parle pas. Vous avez remarqué ? Il n'y a pas de dialogue entre Lot et Abraham. Il n'y a pas l'autre qui rappelle « Ah, oh, mais Dieu, t'as promis ça, tout ça, il y a certainement un moyen de s'arranger. » Ou « Ah, oh, non, non, tu peux pas me laisser tout seul, tu sais bien que le pays est quand même dangereux, là, il y a des gens méchants qui habitent les villes là-bas. » Non, il n'y a rien, il n'y a pas de discussion. Pas un mot ne sort de la bouche de l'autre. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant. C'est le regard de l'autre. Il nous est parlé. L'autre, il voit. Il nous parle, l'auteur, de ce qui frappe les yeux de Lot. Hein, il voit cette belle vallée qui est devant lui. Il voit l'enrichissement pour lui. Là, je vais pouvoir avoir des troupeaux là, qui vont être bien gras et tout. Je vais pouvoir se vendre ça plus cher. Et j'aurai de la place pour grandir. Et ça vous rappelle peut-être une parabole de Jésus, de cet homme qui avait fait une grosse récolte et qui disait « Je vais détruire mes greniers, je vais en faire des plus grands. Et je vais dire à mon âme, réjouis-toi, tu as des biens pour plusieurs jours. Hein, » Et Dieu lui a dit « C'est lui-même, je te redemanderai ton âme. » Mais ça, il pensait comme ça. Il était très loin de Lot à ce moment-là. Il n'était que sur la richesse immédiate qui pouvait se faire. Et je pense que Lot, à mon avis, avant de regarder cette vallée, même si c'était une belle vallée, eh ben, il aurait dû dire « Mon oncle, mais c'est à toi de choisir. C'est toi qui as reçu les promesses de l'Éternel. Et puis, tu es le plus ancien, je te dois le respect. Tu es comme un père pour moi. Et loin de moi l'idée de choisir le premier. » Non, on connaît tous la puissance du dieu Mammon, hein, le dieu de l'argent. Et je pense que ça agit sur l'œuvre. Qu'il a vu que le bien immédiat, matériel, la belle vie qu'il pourrait avoir, et que tout le côté un peu spirituel, j'ai envie de dire, ben ça, il l'a mis de côté. La prospérité, si elle est au rendez-vous, à cette époque, c'est clair. Celui qui a beaucoup d'argent a aussi le pouvoir. D'accord ? Lui, il n'est pas un simple serviteur, il n'est pas un simple petit berger. Non, non, non. Lui, il commande une tribu et tout, et donc, plus il a d'argent, plus il a de pouvoir, plus il a de serviteurs, vous voyez, c'est vraiment la réussite sociale. Et Lot connaît la réputation des villes de Sodome et de Gomorrhe. D'accord ? Des villes qui seront, quelques années plus tard, détruites, hein, d'une manière miraculeuse et tout. Et il sait que ces gens sont de grands pêcheurs. Hein? Et là, il est intéressant de dire qu'il va étendre son territoire juste aux portes. D'accord ? Et quand vous continuez l'histoire de Lot, après il se trouve dans la ville. Et à la fin de l'histoire, il se trouve où ? Il se trouve aux portes de la ville, c'est-à-dire le lieu où les responsables de la ville se réunissent pour prendre des décisions. Donc socialement, Lot est quelqu'un qui a réussi. Mais après, il va partir en s'enfuyant et je vous rappelle qu'il perdra tout. Il fait un choix libre, parce qu'il est libre de choisir, hein. Abraham le laisse choisir, mais j'aimerais rappeler qu'à chaque choix que l'on fait, il y a toujours des conséquences, forcément. Et pour lui, les conséquences vont être importantes, parce qu'il va perdre sa femme, ses biens, sa notoriété, il aura une fin de vie peu glorieuse, parce que, je vous rappelle, que ses filles vont commettre l'inceste avec lui en le faisant boire et tout. Et tout ça a commencé pourquoi ? Parce qu'il a un regard envieux sur cette vallée. Il n'a pas pris le temps de consulter l'Éternel. Il n'a pas pris le temps du dialogue avec Abraham. Mais il a vu tout de suite, ben, j'ai une opportunité, puisque mon oncle me laisse choisir le premier, je choisis la meilleure part. La meilleure part à ses yeux. Hein. Alors on a notre ami Abraham. Abraham, qui sera appelé l'ami de Dieu. Ce qui me plaît beaucoup dans la vie d'Abraham, c'est que c'est un homme qui nous ressemble. Et la Bible est. Et j'aime l'honnêteté de la Bible. Elle ne nous parle pas d'Abraham, le super-héros comme Spider-Man ou je ne sais pas lequel, Iron Man et tout là. Mais Abraham, un homme simple, avec des qualités, mais avec des faiblesses. Hein, Abraham, on le voit dans deux situations avec sa femme, il aura une attitude vraiment lâche. Et puis, dans une autre situation où son neveu est pris, eh ben, on voit Abraham courageux qui va faire la guerre à des rois pour délivrer son neveu. On voit Abraham qui, tout au long de sa vie, va être enseigné par Dieu. Et notez que malgré ses échecs et les fautes qu'il fait, jamais, jamais dans le livre, il y a une parole de condamnation de la part de Dieu. Jamais. Dieu est en train d'instruire son serviteur. Et même quand il fait un mauvais choix, tout ça qui a des conséquences qui sont quand même graves, avec Agar, il y aura quand même des conséquences graves. Jamais il y a une parole de condamnation de Dieu. Dieu est au-dessus, on a l'impression, conduit l'histoire, et est en train d'instruire son serviteur pour le mener là où il veut. Hein? Et Abraham, on va le voir grandir dans sa foi doucement, mais en tout cas, il va grandir. Et Dieu jamais ne lui retirera les promesses. Et Abraham aura aussi cette chose que malgré ses échecs et tout, il va persévérer. Mais à chaque échec, si vous lisez bien les textes, il va apprendre, il va en tirer des enseignements. On a bien vu là que les premiers épisodes de sa vie ne sont pas glorieux. Il reçoit des promesses extraordinaires. Hop, il arrive à Charan, pauvre, il s'arrête. Mais il reçoit de nouveau ses promesses. Il va dans le pays promis, hop, il y a une famine. Il va en Égypte, pof, il fait passer sa femme pour sa sœur. Il ressort vraiment pas très fier. Mais je crois que, en regardant ça, nous, peut-être, on aurait dit, bah, ça commence mal pour Abraham, c'est vraiment pas l'homme de la situation. Parce qu'il y a déjà les deux premiers, certains appellent ça des tests qui passent, pof, capoute. Hein, il fait vraiment des mauvais choix. Mais Dieu est au-dessus des mauvais choix qu'Abraham a pu faire. Abraham, je crois, a découvert des choses comme le pardon de Dieu. Et je crois que c'est pour ça qu'il est souvent parlé des autels que construit Abraham, et peut-être pour des autels pour l'adoration, mais aussi des autels pour faire des sacrifices. Et si vous étudiez un peu la notion de sacrifice, ben c'est comme si en faisant un sacrifice, on rentre dans un cercle où il y a Dieu. Hein, c'est un peu la mentalité à l'époque. Et là, il savait qu'en offrant un sacrifice, il avait une communion avec Dieu. Et ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois qu'Abraham aura un échec, il n'aura pas peur de revenir à Dieu et de faire cet autel pour montrer qu'il veut retrouver sa communion avec Dieu. Et donc il a expérimenté, je crois, vraiment le pardon, la grâce. Il a expérimenté plusieurs fois qu'il pouvait retrouver cette communion avec son Dieu. Alors pourquoi y arrive cette séparation ? Ben, je crois que c'est Abraham veut garder la paix avec son neveu. Qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi. C'est-à-dire que les problèmes qu'il y a entre nos bergers, qu'ils ne viennent pas affecter notre relation. On est des frères, on est du même sang. Et donc voilà, on ne va pas se diviser, tout ça. Donc il vaut mieux une séparation matérielle, mais rester quand même, j'ai envie de dire, avec ça. Excusez-moi, je vais faire un peu la main. Je trouve beau qu'Abraham ait le courage de prendre cette décision. Ce que ça m'enseigne, c'est qu'Abraham, il a pas essayé de dire on va rassembler les bergers et on va discuter et voir comment on peut trouver une solution. Non, il a vu que dans cette situation, la décision à prendre était assez radicale. Hein, il valait mieux se séparer parce que les troupeaux grandissants et tout, forcément, ça n'amènerait que des problèmes supplémentaires. Et pourquoi il y a des disputes ? J'avais remarqué pourquoi il y a des disputes. Oh, excusez-moi, j'ai un peu de chaud. on en fait bien. J'ai cherché pourquoi, finalement, le cœur de la dispute, comme ça. Mais je me suis dit, c'est rigolo, c'est à cause de l'abondance de biens. Abraham et Lot ne peuvent pas rester ensemble parce qu'ils sont trop riches. Alors, une question comme ça en passant, hein, mais faut-il en déduire que l'abondance de biens pourrait être une source de conflit qui amènerait des séparations ? C'est juste une question que je me suis posée, hein, je n'ai pas de réponse. Mais je me suis dit, pouvons-nous dire à l'inverse que la pauvreté serait plus une source de solidarité ? Quand j'étais là au Burkina, j'ai discuté avec un pasteur là-bas et je lui ai dit, écoute, j'observe ton pays, je discute beaucoup avec les gens pour savoir, à l'instant qu'il était avec moi, il m'a dit, t'es comme dans un poisson dans l'eau, là. Mais je voulais apprendre à connaître ces gens pour quand j'allais prêcher, pas prêcher au-dessus de leur tête, je voulais vraiment m'imprégner le plus rapidement possible de la culture. Et je lui ai dit, c'est rigolo parce que dans notre pays, en France, on est assez classé pour être des gens égoïstes et l'individualisme très fort et tout. Mais j'ai dit, là, dans ton pays, quand j'observe les gens le soir dans les rues, tout ça, je vois qu'il y a une solidarité. Et je lui ai dit, je me pose la question, est-ce que c'est le fait que vous êtes très pauvre qui fait que vous êtes solidaire ? Mais il m'a dit oui, parce que sinon, on va crever de faim, quoi. Vous voyez, il m'a dit, on ne laisse pas les gens seuls. Hein, les gens, quelqu'un qui n'a rien, il y aura un voisin qui lui amènera le bol de riz pour qu'il y ait quand même quelque chose. Et puis les gens sont obligés de s'entraider, sinon, il m'a dit, ils ne vont pas survivre. Parce que là-bas, ils ne vivent pas. J'avais plutôt l'impression que pour beaucoup, c'était la survie. Alors je me dis, la richesse n'a pas été vraiment une bénédiction pour Lot et Abraham. Vous vous rappelez ce que dit Jésus à propos de la richesse ? Il me semble qu'il a dit pas mal de choses assez intéressantes. Je sais aussi qu'il nous a demandé, Jésus, d'investir dans une certaine banque, mais je n'ai pas trouvé l'adresse sur Internet. Abraham prend une décision qui, à mon avis, montre qu'il a vraiment retiré des enseignements de ses expériences passées. Je crois qu'il commence à comprendre que le plus important dans sa vie, c'est la promesse que le Seigneur lui a faite. Et il a pu voir la fidélité de Dieu, malgré ses échecs, Dieu est resté fidèle. Et là, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de prendre une mauvaise décision. Et normalement, ça aurait été à lui de choisir l'endroit où il va aller. Mais là, il laisse la place à son neveu Lot parce que je crois que sa confiance en Dieu grandit. Je crois que c'est sa confiance dans la souveraineté de Dieu qui conduit vraiment les choses, qui grandit et qui lui donne de prendre cette décision. Il laisse Lot choisir aussi avec cette parole que l'Éternel lui a donnée avant, « Je te donnerai ce pays. Hein » Pas simplement une descendance, mais aussi une terre. Hein, une terre qu'on peut encore avoir aujourd'hui. Finalement, je me suis dit aussi qu'il a pris un risque parce qu'il ne savait pas ce que l'autre allait prendre. Et l'autre, là, a pris quand même, apparemment, la meilleure partie. Ben, je me suis dit après, tiens, si j'étais dans la situation que j'étais Abraham, hein, je me suis demandé, est-ce que j'aurais été triste de laisser l'autre partir dans cette vallée en sachant qu'il allait aller jusqu'au port de Sodome et Gomorrhe? Est-ce que je ne me serais pas dit, ouh, là, il prend vraiment un risque? J'aurais pu craindre pour sa vie, parce que c'était des hommes pécheurs, méchants, mais je pourrais craindre aussi, est-ce qu'il va garder la foi dans l'Éternel et qu'il ne va pas se mettre à adorer des Baals ou d'autres idoles comme ça? J'ai supposé que, le texte ne le dit pas clairement, mais j'ai supposé qu'ils étaient dans un endroit élevé, puisque hein, il peut regarder tout autour de lui, et donc il y avait cette vue sur la vallée. Je m'imaginais l'homme descendant et rassemblant ses troupeaux, ses bergers, et Abraham regardant son neveu partir vers cette vallée. Et je me suis dit, donc l'autre, Abraham devait peut-être le regard tourné vers le bas. Et c'est le moment que Dieu choisit pour se révéler à lui une nouvelle fois. Et la première chose que Dieu lui dit, c'est « Lève les yeux ». Ne fixe pas cette vallée, c'est tout ça. Lève des yeux. Vous voyez, c'est pour cette image. Hein? Cette histoire commence avec ce regard de Lot qui va faire un mauvais choix, et Dieu appelle Abraham à lever les yeux et à regarder plus loin. L'Éternel fait des révélations à Abraham avec le don du pays promis, hein, avec presque les frontières là, qu'il y aura. Et il fait aussi la promesse, encore une fois, d'une descendance, alors que Sarah est stérile. Oui, et Abraham va la recevoir, cette promesse. Je pense qu'Abraham a pu voir que vraiment Dieu règne, et que Dieu était là lorsqu'il y avait le dialogue entre lui et l'autre. Il fait l'expérience d'un Dieu proche, qui se soucie de faire avancer son alliance, mais qui prend aussi soin de son serviteur et qui prend le temps de le former. Et malgré les faiblesses de ce dernier, eh ben, Dieu lui reste fidèle. On voudrait dire quelques mots sur l'Éternel. Vous avez vu que l'Éternel n'est pas intervenu pendant la discussion entre Abraham et Lot. Il les a laissés quelque part régler leurs problèmes. Il a laissé Abraham gérer cela. Certains disent qu'il a voulu tester la foi d'Abraham. Je remarque aussi que Dieu ne fait aucun reproche à Lot. Ah, il ne dit pas, Lot, pourquoi tu vas là-bas? Regarde la ville de Sodome et Gomorrhe, ce sont des grands pécheurs et tout ça. Non, il ne fait pas de reproche à Lot. Il ne fait pas non plus de reproche ou de commentaire sur le fait qu'Abraham a laissé Lot partir. Le pas de foi d'Abraham, sa confiance dans le Dieu souverain, à ce moment où l'Éternel intervient, va être vraiment récompensée. Tout le pays qu'il voit devant lui, Dieu lui donne. Et depuis qu'il a quitté le pays de Ur, c'est la première fois qu'il peut, de ses yeux, voir tout ce pays. Pays qui portera, je vous rappelle, le nom de son petit-fils, puisque Jacob, son nom sera changé en Israël. Et je me dis que l'Éternel demande encore à Abraham de faire un pas de foi, parce que sa femme est stérile, parce qu'il lui dit « je te donnerai le pays », mais qu'en fait, à la fin, il va se retrouver avec un bout de terrain où il aura acheté une grotte pour enterrer sa femme. Et vraiment, le pays promis à ses descendants, il ne verra pas la descendance l'habiter, puisque ça va se produire plusieurs siècles après. Il me dit, pour nous qui vivons dans une société de l'immédiateté, comment comprenons-nous l'œuvre que Dieu dans nos vies, sa manière de nous utiliser pour faire avancer son royaume? Parfois on se demande peut-être quel rôle je peux vraiment jouer, ou quel rôle je suis en train de jouer dans l'avancement du royaume de Dieu. Hein? Mais j'aime à me dire des fois qu'on est comme tous des morceaux d'un puzzle, que chacun a sa place dans ce tableau. Hein, on ne sait pas toujours bien quelle est notre place, quel est le lieu de tout ça. Mais ayons confiance que Dieu vraiment nous utilise. Et Abraham a reçu des promesses et tout qu'il n'a pas vu concrètement se réaliser. Mais il est dit d'Abraham que Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. C'est dans Romains 4, Soyons conscients que si nous ne comprenons pas tout ce que l'Éternel fait, la manière de nous conduire, si parfois même on est découragé par nos échecs et tout, Dieu, dans sa grâce, continue à nous utiliser. Tant qu'on a le désir d'être fidèle, tant qu'on revient à lui lorsqu'on a tombé. Et je vois que c'est un des enseignements que je retire là, des trois prêches que j'ai fait. C'est que Dieu a été patient dans l'instruction d'Abraham, et soyons conscients qu'il l'est aussi avec nous. Vous avez vu que, pour conclure, là, je dirais que l'épisode là se trouve entre la construction de deux autels. Nous pourrions presque rythmer la vie d'Abraham par ses constructions d'autels. Et moi, je me dis, depuis un bon moment, hein, depuis que j'ai fait les camps à Ganagobi, qu'on a logé avec les moines là-haut, eh ben, j'aimerais que ma vie soit rythmée par les temps de prière dans la journée, plutôt que d'être rythmée par mon agenda. Pas vous ? Voilà, je vous invite encore à prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole est, oui, vraiment une nourriture, elle est vraiment notre pain quotidien. Et c'est vrai, Seigneur, que nous avons besoin de la lire, de la méditer. Nous avons aussi besoin que ton esprit continue à œuvrer dans nos vies, Seigneur. Tu connais nos imperfections, nos faiblesses. Tu connais même nos infidélités et des problèmes que nous pouvons avoir. Mais dans ta grâce, tu continues de nous aimer, tu continues à agir dans nos vies. Parce que Seigneur, tu veux aussi que chacun de nous puissions porter du fruit là où tu nous as placés. Que nous puissions être les témoins de ton royaume, Seigneur. Merci de ce que tu nous enseignes à travers la vie d'Abraham. Merci de tout ce que nous pouvons apprendre sur toi. Merci Seigneur que si tu t'es révélé à lui comme l'Éternel, tu t'es aussi révélé à nous comme l'Éternel, mais aussi comme notre Sauveur. Je veux encore te dire merci pour tout ce que Jésus a accompli sur la croix. Merci pour sa mort, pour sa résurrection. Merci pour le pardon qu'il nous a offert. Merci aussi pour la place qu'il nous prépare auprès de lui. Et pour l'assurance que nous avons qu'un jour il reviendra chercher son Église, Seigneur. Et que nous serons auprès de lui. Nous habiterons cette nouvelle terre avec ces nouveaux cieux que tu prépares, Seigneur. Là où la paix et la justice seront présents d'une manière totale, Seigneur. Merci encore de bénir l'Assemblée, Seigneur, de renouveler la foi de chacun. Et merci de nous donner d'accomplir les œuvres que tu as préparées pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.